Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu de Clay Entertainment Don't Starve, sorti en 2013 sur plateforme de téléchargement, et Oxygen Not Included, disponible depuis début 2017 de même. Nous interrogerons la façon dont le joueur interagit avec son environnement et l'automatisation de ses actions.
Première partie, présentation et problématique.
Les jeux de gestion, qu'il s'agisse de jeux où nous devons diriger une cité, comme Kaiser 3, un hôpital ou un parc d'attractions, Team Park ou Team Hospital, voire une civilisation entière, Civilization, compose un genre spécifique qui peut être systématiquement considéré comme à part du microcosme vidéoludique dans son ensemble. Au contraire d'un jeu de combat, de plateforme, de course, le joueur ne contrôle pas directement un ou plusieurs avatars, quelque forme qu'il peut prendre, mais comme une main invisible et omnipotente terraformant, construisant, ordonnant de faire ceci ou cela. L'on opposera, ce faisant, d'un côté, les jeux narratifs, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, et qui nous proposent de suivre une progression, fût-elle ou non, explicite ou inférable. De l'autre, les jeux abstraits, dans lesquels l'entité que contrôle le joueur n'a pas de représentation sensible et renvoie davantage à une force ou à une idée. Don't Starve d'un côté, Oxygen Not Included de l'autre, illustre bien cette opposition entre les différentes approches du jeu vidéo chez un même développeur qui plus est. Don't Starve vous propose de diriger un avatar représenté à l'écran, ayant un nom et des capacités spéciales, avec pour seul objectif de survivre à la nature inhospitalière. Oxygen Not Included, ou ONI, vous met aux commandes d'un groupe d'astronautes prisonniers d'un astéroïde, et il vous faudra leur donner des ordres au moyen de différents menus. Cependant, autant dans Don't Starve, nous contrôlons directement notre personnage, indiquant où il doit se déplacer, au contact de quel objet il doit agir, le coup qu'il doit porter, ce qu'il doit ramasser, autant dans ONI, nous ne donnons qu'un ordre plus ou moins précis, creuser ceci, construire cela, ramasser ce débris, et nos créatures, en fonction de leur capacité actuelle et des machines à disposition, se chargeront d'accomplir avec plus ou moins de célérité et plus ou moins de précision, voire d'intelligence, votre planification démiurgique. Que ce soit cependant dans un jeu ou dans l'autre, les jeux de Clay Entertainment mettent l'accent sur le crafting, soit l'artisanat si l'on peut dire, et la nécessité pour le joueur de récupérer divers objets basiques pour les assembler et en obtenir de meilleurs ou de plus puissants, lui permettant ainsi de survivre davantage encore dans son environnement. On sera surpris de voir cependant, malgré la différence essentielle de traitement qui existe entre ces deux jeux, que les mécanismes d'artisanat sont pour le moins identiques. Il suffit de sélectionner l'objet à créer, et du moment que nous possédons notre inventaire immédiat, les matériaux et les compétences requises, le reste se fait automatiquement. Ce choix de gameplay, qui évidemment n'est pas spécifiquement lié à ces jeux ou à ce développeur, nous a cependant intéressés dans la mesure où il nous permet de nous interroger plus particulièrement sur la question de la conventionnalisation des commandes dans les jeux vidéo, leur arbitraire, mais également leur automatisation. En prenant l'exemple des jeux cités, nous poserons notre problématique comme suit. Quelles sont les implications de l'artisanat au regard des commandes générales dans les jeux de Clay Entertainment, Don't Starve et Oxygen Not Included?
Deuxième partie, arbitraire, convention et automatisation.
La relation existante entre les commandes, ou l'interface, d'un jeu vidéo et les actions réalisées au sein du jeu lui-même n'obéissent pas nécessairement à une logique intrinsèque ou, plutôt, cette relation est codifiée par une série de paramètres exogènes et dépendantes, notamment du genre dans lequel le jeu s'inscrit et de l'époque dans laquelle il s'inscrit. Par exemple, il a été comme une habitude assurée, tout au long de la période de la Super Nintendo, que la touche B faisait sauter le personnage dans un jeu de plateforme. Mais ce même bouton, dans un jeu de combat, était associé à une attaque tandis que le saut était cette fois-ci relégué à la touche O du pad directionnel, élément qui n'avait cessé de m'intriguer lorsque j'étais enfant. Cette rapide comparaison prouve ce faisant que les commandes dans un jeu vidéo sont, peut-être cela allait-il sans dire, parfaitement arbitraires. Ces commandes sont dépendantes du bon vouloir des développeurs d'une part, mais également, et à certaines occasions, du joueur lui-même qui peut choisir de créer ses propres combinaisons. La chose est assez bien représentée dans le monde du PC, plus rarement présente dans le monde des consoles, bien que l'on puisse le trouver de temps à autre. Mais globalement, il est des constantes ou, si l'on peut dire, des emplois par défaut et qui font à présent partie d'une sorte de patrimoine commun parmi les joueurs, du moins parmi ceux ayant suffisamment pratiqué le média pour en développer certains automatismes. La barre espace nous fait sauter dans un jeu sur ordinateur, la combinaison ZQSD en clavier AZERTY nous fait nous déplacer, le bouton Start d'une manette de jeu valide une option d'un menu. Les constructeurs ont parfois tâché de systématiser la chose autant que faire se pouvait, sur PlayStation par exemple, où chaque bouton avait un rôle abstrait dédié. La croix et le rond permettaient d'annuler et de valider une option respectivement, le carré ouvrait les menus, le triangle changeait le point de vue. Mais les développeurs, puis les joueurs, accommodèrent évidemment à leur desiderata ces différentes commandes. Les commandes du jeu vidéo ne se définissent cependant pas uniquement en termes d'arbitraire ou de conventionnel, mais également en termes d'automatisation et de ritualisation, si l'on peut dire. Car il n'est pas peu dire qu'un bouton déclenche une action. Il faut également observer que la complexité de cette action est également arbitrairement définie. Considérons par exemple Super Mario World. Dans ce jeu, et pour la première fois de son histoire, Mario dispose de deux sauts distincts. Le premier habituel ou naturel, celui qui est illustré dès ses premières aventures. Et un second saut, dit tourbillon, attribué à un deuxième bouton de la manette, et qui permet de rebondir notamment sur certains ennemis et de se désengager de Yoshi, notre ami dinosaure qui fait ici sa première apparition. Ce saut tourbillon est d'une apparence plus complexe que le premier, Mario tournoyant sur lui-même, et l'on aurait pu imaginer une contrainte de gameplay nous demandant de prendre de l'élan ou de revenir fugacement sur nos pas pour l'enclencher, alors qu'il ne suffit pour cela que d'appuyer sur un bouton. Au contraire, si nous prenons Super Mario 64, chaque saut du plombier est une variation du saut naturel, de base et conditionnel. Il faut s'accroupir avant de sauter pour un saut en longueur, être en rythme pour le triple saut, percuter un mur d'une certaine façon pour le rebond mural, et ainsi de suite, alors que l'on aurait pu imaginer ces types de sauts dévolus à un bouton spécifique, nonobstant les contraintes de dessin de la console elle-même. Partant, il n'y a pas de relation entre une action particulière et sa complexité, et la commande correspondante. Une action complexe peut être réduite à une seule touche, voire être purement contextuelle, à l'instar du saut dans Ocarina of Time ou Majora's Mask. Et une action plus simple peut exiger en retour une combinaison plus élaborée. Manuel Samuel, un jeu indépendant sorti en 2016, fonde ainsi son principe global sur cette idée, en demandant aux joueurs une certaine dextérité pour accomplir des actions qui, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans un jeu vidéo en général, sont parfaitement automatisées, comme le fait de respirer, de cligner des yeux, voire de marcher. Ce disant, les relations entre les commandes d'un jeu vidéo et les actions correspondantes doivent s'analyser à l'aune de trois paramètres. Un arbitraire, qui fait associer une action à un bouton ou une association de boutons. Une convention, qui se comprend en termes de normalisation, d'attente, au regard des habitudes du média, déterminées par le genre et l'époque du jeu que l'on pratique. Enfin, une automatisation, qui module la complexité apparente d'une action, selon notre connaissance et de notre réalité et de l'univers du jeu, et choisit d'en établir la difficulté d'exécution.
Troisième partie, Press Start to Play.
Ceci étant dit, revenons à Don't Starve et à Oxygen Not Included et observons de quelle façon ces jeux parviennent à gérer leur complexité d'action. Du fait de leur opposition fondamentale, jeu narrative versus jeu abstrait, Don't Starve a cette caractéristique au regard de Donnie, c'est qu'il propose une conventionnalisation plus forte. Le fait que le jeu soit narratif et qu'il nous demande de diriger un personnage en particulier, un avatar, implique une série d'actions similaires à celles des jeux de cette espèce, en l'occurrence une modalité de déplacement et une modalité d'action, qui automatisent des procédures fondamentalement distinctes. Ramasser un objet, abattre un arbre, utiliser une pioche ou faire du feu. À côté de ça, certaines actions ne sont pas conventionnelles du fait d'une grande automatisation et d'un grand arbitraire, notamment tout ce qui est du ressort de l'artisanat. Avec le même bouton, voilà le personnage fabriquer une hache, une pioche, voire une machine alchimique ou une hutte. Moins qu'une action spécifique, la commande s'établit comme une sorte d'idéalisation d'action, un faire abstrait dont l'essence dépend moins de ses procédures que de ses conditions de réalisation, c'est-à-dire l'obtention des matériaux nécessaires à la construction de la dite machine. Oni supprime de son économie la légère conventionnalisation dont nous parlions précédemment, au profit d'un arbitraire et d'une automatisation absolue. Le joueur, comme dans l'ensemble des Absolute Games par ailleurs, est un maître d'œuvre planifiant ses prochaines actions, ordonnant de construire ceci ici, de creuser cette roche-là, et les bonhommes de s'exécuter en conséquence. L'accomplissement de ces actions par ceci dépend là encore de certaines conditions, notamment de leur capacité à atteindre physiquement le lieu où l'ordre doit s'accomplir. L'on peut bien ordonner de creuser ce métal, mais si un chemin n'est pas tracé, les astronautes, ou les duplicants encore comme le jeu les appelle, ne pourront accomplir l'action. Nous retrouverons donc une forme de contrainte similaire à celle observée dans Don't Starve, si ce n'est que le joueur ne peut agir directement pour résoudre cet état de fait, mais indirectement, une fois encore. Quel que soit alors le jeu considéré, abstract game ou narrative game, l'action se comprend également en termes de contrainte, qui n'est que l'expression de la règle propre à la définition d'un jeu, et cette contrainte se comprend en termes de spatialité plutôt qu'en termes de temporalité. Une action de jeu est ce faisant toujours contextuelle, non dans le sens restreint que l'on donne traditionnellement à ce mot, à l'image des gros boutons B que l'on trouve constamment dans Conker's Bad Fur Day et qui dotent le héros de mouvements inaccessibles autrement, mais dans un sens plus large. Comme une action est ici une idée d'action, sa réussite ne dépend pas d'un lieu en particulier, mais d'une réunion de conditions, de contexte, qui permet à l'action de s'accomplir. Du point de vue sémiotique, cette contextualité ou cette conditionnalité a une incidence sur les réseaux de signes qu'il nous faut étudier. Jusqu'à présent, nous considérions l'action comme s'intégrant dans un réseau de signes pour atteindre un objectif en particulier. Mais il nous faut également envisager cette action, non comme moyen, mais comme aboutissement d'un processus sémiotique qui lui est relié. L'action est considérée comme telle parce qu'elle prend place dans un réseau de conditions qui permet au joueur de l'accomplir. Quelque part, nous déplaçons l'épicentre de notre réflexion, pour ce numéro tout du moins. Et plutôt que d'envisager la complétude d'une action, son résultat, et d'en détricoter le processus, nous envisagerons plutôt l'action comme finalité elle-même, et le processus qu'elle aide à construire.
Quatrième partie, une théorie de l'action.
Faisons une parenthèse, éloignons-nous des jeux de Clay Entertainment et considérons une théorie plus large. Une action dans un jeu vidéo est donc définie. Arbitrairement, il n'y a pas de relation sensée entre la commande à rentrer et l'action accomplie. Conventionnellement, les associations entre les commandes et l'action dépendent de l'époque et du genre de jeu et répondent à certains rituels et à certaines habitudes. Automatiquement, une action est un automatisme plus ou moins complexe destiné à simplifier une série d'éléments qui, dans un autre cadre, seraient plus complexes à accomplir. Enfin, contextuellement, une action s'accomplit uniquement lorsque certaines conditions sont réunies et uniquement à ce moment-là, y compris lorsque ces conditions ne sont pas explicitement données. En envisageant l'action selon ces quatre caractéristiques, arbitraire, convention, automatisme, contexte, nous terrassons la différence que nous faisions entre narrative et abstract game, le seul élément les séparant n'étant jamais que la présence, ou non, d'un avatar susceptible d'être assimilé au joueur agissant. Nous pensons dès lors que cette théorie de l'action nous permet d'inclure l'intégralité des jeux, et de distinguer dès lors, au sein d'un titre en particulier, ce qui peut légitimement être considéré comme une action et ce qui n'en est point. Effectivement, notre définition met de côté un élément qui aurait pu paraître essentiel, celui de l'interaction. Mais précisément, une interaction est une relation entre actions, non une action elle-même, qui serait comme l'atome de cette molécule vidéoludique fondamentale. Illustrons alors la chose avec quelques exemples fondamentaux. Dans Tetris, faire tourner une pièce est une action, car il s'agit d'une commande arbitraire, conventionnelle, automatique et contextuelle. On ne peut agir que sur la pièce en jeu et non sur celle annoncée. Pour les mêmes raisons, verrouiller ou déplacer une pièce dans l'aire de jeu est une action. En revanche, valider une ou plusieurs lignes est une interaction, dans la mesure où elle doit combiner et le déplacement orientation et le verrouillage de la pièce. Dans Super Mario Bros, sauter est une action. Ramasser une pièce est une action. Détruire un bloc est une action, distincte du saut dans la mesure où il faut un contexte supplémentaire pour l'accomplir. Dans Mega Man, tirer est une action. Sauter est une action. Tirer et sauter en même temps est une interaction, car combinant deux actions indépendantes entre elles, et ce, sans ajout de contexte supplémentaire. Si nous acceptons ces définitions, une question doit immédiatement se poser. A-t-on au moins une interaction dans tous les jeux vidéo ? Ou bien, certains jeux se définissent-ils par une absence d'interaction ? Il me semble effectivement que certains jeux, certains genres, tendent à se distinguer par cette absence d'interaction, à nouveau dans le sens plus large, vidéoludique, que nous venons de définir. Les God Games, par exemple, ou encore les jeux d'aventure type point and click, semblent n'illustrer que des actions, et seulement des actions, consistant à valider une option précédemment choisie. Les conséquences de cette action, la résolution d'une énigme par exemple, la création d'une unité ou d'une ville, et ainsi de suite, ne dépendent pas directement de l'action elle-même, mais bien du réseau sémiotique qu'elle l'invite à construire. Il ne s'agit pas d'une relation en amont, mais d'une relation en aval. La comparaison entre Don't Starve et Oni nous permet dès lors de montrer que l'opposition sémiotique conceptuelle et fondamentale entre jeu avec avatar et jeu sans avatar, si elle fonctionne selon un certain point de vue, est inadaptée dans la nouvelle théorie de l'action que nous venons de développer et qui résonne selon l'absence ou la présence d'au moins une interaction. Tous les jeux vidéo proposant au moins une action puisque, comme je le rappelle, elle émane de la règle définitoire du média. C'est en cela que nous pouvons considérer comme faisant partie du même genre Don't Starve et Oni, alors que leur apparence et leur gameplay tendent à les éloigner l'un de l'autre. Mais de la même façon qu'il est toujours possible de construire une série ou une famille en se fondant sur la présence d'un héros ou d'un personnage, considérer le jeu vidéo comme un média agissant permet des rapprochements qui n'auraient pas été précédemment envisageables.
Cinquième partie, faire et pouvoir faire.
Une fois considéré que les jeux que nous étudions ici peuvent être rapprochés, à la condition de changer notre angle de vue, nous pouvons essayer de répondre à notre problématique initiale et interroger la relation entre l'artisanat et les autres actions des jeux. Nous rappelons effectivement que dans le cadre de ces jeux, l'artisanat n'est pas une interaction mais une action, car répondant à la définition donnée précédemment. Que ce soit donc un geste simplifié et peu automatisé, comme cueillir une fleur dans Don't Starve, ou creuser un bloc de terrain dans Oni, ou une action plus élaborée et exigeant un contexte plus large, comme construire une machine alchimique ou une machine à oxygène, l'action du joueur est identique et ne consiste qu'en une sélection dans un menu, à l'instar de ce que nous décrivions pour les God Games. Ce terrassement des actions va à contre-courant des habitudes offertes, généralement, par l'ensemble du média qui se plaît à exiger du joueur de plus en plus d'interactions au fur et à mesure que progresse l'aventure. On peut prendre l'exemple des jeux Super Mario en 3 dimensions, notamment de Super Mario Sunshine et de Super Mario Galaxy, ou encore les derniers donjons des Legend of Zelda, à compter de A Link to the Past cependant. Dans tous ces jeux, les dernières étapes sont celles qui multiplient le nombre d'interactions au regard de l'économie globale de la partie, comme nous l'avions déjà observé, avec une terminologie différente cependant, dans notre 7e émission consacrée à Braid. Don't Starve et Oni, néanmoins, et nous pourrions étendre cette observation aux autres jeux mettant l'accent sur la domestication d'un univers hostile, par exemple Factorio, ne propose pas ce type d'élément. Et cela n'est alors pas sans incidence quant à l'évolution de la difficulté au sein de ces jeux. Puisque toutes les actions sont indexées sur le même geste, sur la même commande, et qu'elles ne diffèrent que par l'automatisation qu'elles impliquent, l'on ne peut considérer qu'il y a une évolution de la difficulté du moins, celle-ci ne doit pas se saisir traditionnellement comme une courbe montante. Plutôt, dès le commencement, toutes les possibilités sont offertes. Et la difficulté ne vient donc pas du faire, soit de l'interaction complexe que le jeu peut exiger de nous, mais du pouvoir faire, non plus de l'association, mais de la succession d'actions qui permettent d'acquérir des matériaux et, in fine, mener les différents projets d'artisanat. La difficulté se déplace dès lors, et donnent l'impression d'avoir affaire à des jeux très difficiles, et ils ont effectivement cette réputation-là. Néanmoins, un regard plus mesuré, plus attentif, comprend que la difficulté vient davantage de la compréhension de nos différentes actions que de leur exécution. Nous réserverons cela sans doute pour une future émission, mais nous envisageons l'idée que la difficulté d'un jeu soit, concernant cette sous-catégorie, orienté vers l'extra-diégétique et la planification en dehors de l'univers du jeu, et non pas inhérente aux règles qu'il illustre lui-même. Cela aurait néanmoins pour conséquence de faire de ces jeux des ensembles, transcendant leurs limites, orientés vers l'extérieur, ce qui irait à l'encontre de notre définition, intouchée depuis le commencement, du jeu vidéo comme ensemble clos et contenu dans lui-même. Nous reviendrons alors ultérieurement sur les God Games, qui nous semblent tirer les limites de la définition d'un jeu vidéo plus que nul autre. Quoi qu'il en soit, nous retiendrons que Don't Starve et Oni proposent une vision particulière de l'action dans le jeu vidéo, en faisant en sorte de demander le même type d'investissement au joueur tout au long de sa partie, et ne jouant que sur l'automatisation et la contextualisation des gestes, et non leur conventionnalisation et leur arbitraire. La difficulté se déplace dès lors, se déconcentre si l'on veut, ce qui donne une courbe de progression atypique et participe de leur réputation de jeux exigeants. Sans mise en perspective de l'artisanat au regard des autres gestes du jeu, c'est comme si tout se présentait immédiatement au joueur, dans toute sa complexité, sans organisation quelconque. Ce serait comme un jeu d'action dans lequel tous les niveaux sont immédiatement accessibles, sans indication claire d'une progression spécifique. Partant, ces jeux boîte à outils, donnant tout mais ne délivrant rien, vont à l'encontre d'une définition traditionnelle de la difficulté. Cela a dès lors une incidence sur leur durée de vie. Sans progression de la difficulté, il ne peut y avoir de progression seulement et, partant, de fin. L'on peut bien se donner des objectifs, mais ceux-ci ne seront jamais qu'arbitrairement définis par le joueur et rien de plus. Sans progression, il ne peut y avoir de sensation de complétion. Et effectivement, ces jeux n'ont pas d'objectifs clairement déterminés. Si ce n'est eux-mêmes, c'est-à-dire qui jouer, c'est déjà les compléter. L'on ne fera qu'augmenter notre temps de jeu, et rien de plus. C'est là, en revanche, une caractéristique globale des GOM Games, et dans une moindre mesure, des Puzzle Games. Et cela peut également faire l'objet d'une nouvelle classification des jeux entre eux, révélant peut-être même de nouvelles propriétés. Mais ça, nous y reviendrons en temps voulu.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.